Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir, pas de dossier du jour, mais pour commencer l'émission, on vous propose un entretien que nous avons réalisé avec le journaliste Fabien Perrier, qui est basé en Grèce, sur la situation dans ce pays. Bonjour Fabien.
Calimera, ça va Fréquence Paris Pluriel?
Pour commencer, comment se passe justement le confinement?
Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le nombre de morts en Grèce est assez faible proportionnellement ou par rapport plutôt aux autres pays de l'Union européenne. Il y a, à l'heure où je parle, environ 100 morts. Hier soir, on avait 99 décès liés au Covid-19. Donc, tous les jours, le nombre de morts augmente un petit peu. On a les annonces par le médecin général, Monsieur Tsiodras, à 18h. Mais tous les jours, on se rend compte que finalement, il n'y a pas une croissance exponentielle comme on le craignait. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que c'est d'autant plus surprenant qu'on est dans un pays qui a quand même souffert de 10 années d'austérité. Et cette austérité a vraiment affecté les hôpitaux publics, a affecté le système de santé dans son ensemble. On se rappelle, on en a déjà discuté assez souvent hein, sur ces ondes, qu'il y a même des dispensaires sociaux qui ont été créés où des médecins bénévoles venaient soigner les patients qui n'avaient plus les moyens d'aller dans le système de santé classique. Ces dispensaires fonctionnaient avec des bouts de ficelle puisque c'était des dons de matériel venus d'autres pays de l'Union européenne, des Grecs qui apportaient les restes de médicaments qu'ils pouvaient avoir, etc., etc. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans un système de santé qui a été détruit, ravagé par 10 années d'austérité, mais qui semble résister malgré tout à cette crise sanitaire telle qu'on la voit. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que le pays, le gouvernement de droite, élu en juillet 2019, a tout de suite décidé deux choses. La première, c'est la fermeture des écoles. La deuxième, c'est la fermeture des zones dès que des premiers cas avaient été découverts. Par exemple, la ville de Castoria a été littéralement fermée. Donc, le virus a moins pu se propager. La deuxième chose, me confie un médecin, c'est que très vite, le Premier ministre a écouté ce médecin, Tsiodras, ce médecin général, et a imposé un confinement ou a recommandé plus exactement un confinement de la population, et la population a suivi le conseil. Et comme me disait cet médecin responsable d'un président d'un hôpital, nous n'avons pas eu d'élection et personne nous a demandé d'aller au théâtre ou d'aller nous rassembler. Au contraire, le 13 mars, alors qu'il y a une dizaine de cas de mémoire en Grèce, de décès en Grèce, on prend la décision de fermer tous les lieux de culture, tous les lieux de rassemblement possibles. On interdit les rassemblements. Et je le dis j'ai d'autant plus la mémoire de la date que le 13 mars est l'anniversaire de ma maman, mais aussi parce que j'étais en reportage à la frontière nord de la Grèce, à la frontière avec la Turquie, et j'entendais tout le monde me dire « mais attention, tu devrais rentrer parce que possiblement tu vas plus avoir d'avion pour rentrer ». Et en fait, moi j'avais beaucoup de mal, écoutant mon gouvernement national français donc, à envisager cette possibilité. Et on voit bien que le niveau d'information a toujours eu un cran d'avance sur ce qui s'est passé dans d'autres pays européens et aussi presque sur la maladie, j'ai envie de dire, l'évolution de la maladie. Et la troisième chose qui est très importante, c'est que dans ce pays où il y a eu quand même une forte austérité énorme, hein, qui a fait passer le taux de chômage de 10% avant 2010 à quasiment 30% en 2014. Ça a baissé depuis, on est à peu près à 18% aujourd'hui. Mais dans ce pays qui a connu une catastrophe économique et sociale, quand le gouvernement de gauche de Syriza a accédé aux commandes du pays en janvier 2015 et renouvelé par les élections en septembre 2015, il a essayé d'investir dans le système hospitalier. Et ça, c'est important. Parce que s'il y avait eu une destruction énorme du nombre de lits, il y a quand même eu une tentative de réorganisation, mais aussi d'embaucher des infirmières, quelques médecins, d'éviter aussi une fuite des cerveaux. 120 000 médecins, dit-on, et essentiellement des jeunes, ont quitté la Grèce depuis 2010, c'est-à-dire des jeunes médecins formés en Grèce qui sont partis, beaucoup en Allemagne, d'autres au Royaume-Uni. Mais il y a eu cette tentative, ce qui fait que quand Mitsotakis est arrivé au pouvoir, il est arrivé dans un système de santé qui avait été vraiment détruit pendant plusieurs années, mais à un moment où, en fait, on venait d'essayer d'entamer sa reconstruction. Ça, tout ça pour dire que ça n'allait pas très très loin, mais malgré tout, il y avait déjà eu des efforts qui avaient été faits. Et ça, c'est peut-être un peu plus... ça peut paraître un peu plus sociologique, voire un peu anecdotique, mais j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une sociologue, Alexandra Koroneou, qui me disait, mais en Grèce, il y a toujours eu une confiance énorme dans la médecine. Alors, j'étais un peu étonné, elle me dit, mais oui, parce que, un, la Grèce est un pays pauvre. Donc, on a toujours besoin à la maison des forces de travail. Donc, on fait confiance à son médecin et on nous a expliqué très jeune comment faire pour tuer les virus. La deuxième chose, c'est que dans cette confiance, pour expliquer cette confiance dans la médecine, c'est que les médecins viennent beaucoup des milieux populaires en réalité. Elle me disait que dans les années 50, il y avait trois métiers si tu voulais progresser socialement. Médecin, avocat, il y a un nombre incroyable d'avocats en Grèce, et professeur. Donc je lui répondais pour plaisanter, oui, médecin pour se soigner, avocat pour se défendre, et l'enseignement pour s'éduquer, en fait, pour acquérir un bagage culturel. C'est tout à fait ça. Mais c'est important, cet aspect-là aussi, parce que du coup, le lien entre le médecin et les familles est un lien extrêmement étroit, extrêmement précis. Les médecins connaissent, et les médecins n'ont pas forcément de tarification à l'acte. Donc, ils ont du temps à passer avec leurs patients. Quand on va chez un médecin en Grèce, moi, j'y vais de temps en temps, le moins possible et finalement très peu, mais les quelques fois où ça a pu m'arriver, on m'a posé plein de questions. Pourquoi je suis là? Depuis quand? Comment je vis ce partage entre deux pays, etc. Et ça. Mais en France, je me rappelle avoir dû y aller à mon dernier passage en France, 10 minutes, c'était plié. C'est très, je pense, très révélateur de cet état d'esprit et du coup aussi de cet état d'esprit, de confiance, mais du coup aussi d'une propension à aller consulter son médecin. Bon, après, je dis toujours de façon un peu ironique, je connais pas non plus un pays où il y a autant de gens aussi hypochondriaques qu'en Grèce. Bon. Alors, je le dis de façon un peu ironique, et parce qu'il faut bien, rire comme on peut de temps en temps, surtout en période de confinement, mais je pense que c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'en Grèce, comme on a confiance et comme on connaît le médecin, on n'hésite pas à consulter. Et ça amène à un dernier point, le quatrième. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne veux pas m'immiscer dans les débats scientifiques et de médicamentation qu'il peut y avoir. J'entends tous les médecins dire, à mon avis, à juste titre, qu'il faut éviter l'automédication. Mais dans les hôpitaux, la présidente de l'hôpital que j'ai interviewé m'a dit qu'ils ont administré, comme ils n'avaient pas de test, au premier symptôme, ils ont administré ce mélange chloroquine plus antibiotique. Et elle pense que ça a permis d'éviter de faire diminuer la charge virale, donc d'éviter la contagion. Après, un autre médecin français, cette fois, que j'ai fait réagir à ce propos, me dit « Oui, mais ça, c'est aussi très dangereux parce que c'est la preuve d'une médecine pauvre. Parce qu'il aurait d'abord fallu tester pour être sûr que nous administrions le bon traitement. » Et il a sans aucun doute raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme on savait en Grèce qu'on était dans un système de santé faible, tous ces éléments montrent qu'il y avait cette conscience, qu'il y a en même temps la confiance. Eh bien, on a essayé de faire au plus vite comme on pouvait, avec, comme le disait Christophe Prudhomme, le médecin urgentiste, le porte-parole des médecins urgentistes, dans un entretien qu'il a accordé ce matin au Journal des rédacteurs à Athènes. Comment dire ? C'est une médecine qui a essayé de se débrouiller avec ses failles, mais ce n'est pas la médecine que l'on devrait avoir. Voilà.
Donc, il y a une confiance dans le gouvernement et dans la médecine. Qu'en est-il de la situation des migrants ?
On va parler des migrants très volontiers, mais justement, il y a un point à propos de la confiance dans le gouvernement que je voudrais quand même souligner. Le gouvernement, il a été élu avec 40%. Le Premier ministre, la majorité, puisque on vote pour des députés, le Premier ministre est issu de la majorité, 40% de voix pour le parti de droite, Nouvelle Démocratie, qui est un parti à droite avec des éléments d'extrême droite quand même dedans. Il faut l'avoir aussi en tête, ça. Y compris pour expliquer la réponse sur les migrants. Mais s'il y a la confiance sur le plan sanitaire, je pense que c'est d'abord parce qu'il y a un médecin qui s'appelle le médecin Tsiodras, le docteur Tsiodras, professeur même, qui a été écouté par le Premier ministre et qui a pris la parole, qui prend la parole tous les jours à 18h. La deuxième chose, c'est que s'il y a une confiance sur le plan sanitaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait une confiance sur le plan économique et social. Pourquoi je dis ça ? Les entreprises qui ont dû fermer pour cause de coronavirus peuvent mettre au chômage les salariés, les travailleurs, mais ils ont une indemnisation, ces salariés, de 800 euros pour 45 jours. Hein ? Donc, on est en dessous du salaire minimum grec. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le vrai problème en Grèce, c'est que la saison touristique est à peu près morte à l'instant et le tourisme représente quasiment 20% du produit intérieur brut. Un cinquième du produit intérieur brut est lié à l'industrie touristique, directement. Hein. On imagine les problèmes économiques que cela va poser, de voir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun avion qui débarque à Athènes avec son flot de touristes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se féliciter, loin de là, de nos modes, de nos pratiques touristiques. Mais ça, c'est une autre question et je la laisse aux spécialistes. Mais la conséquence pour la Grèce, c'est qu'on est dans une confiance aujourd'hui sur le plan sanitaire, mais dans une incertitude sur ce qui va se passer sur le plan social et sur le plan économique. Une incertitude extrêmement forte. Et sans vouloir faire mien ce propos, je veux en revanche vous rapporter ce que me disait pas plus tard qu'hier la caissière au supermarché. Et je lui ai demandé un petit peu comment elle voyait la situation, puisqu'elle était derrière son plexiglas. Elle me répondait qu'elle avait très peur. Je lui ai dit, ah oui, vous avez beaucoup de contacts avec les gens, etc. Elle me dit, non, elle me dit, moi j'ai peur pour après. Mais aujourd'hui, les gens sont au chômage. Aujourd'hui, les gens ne gagnent pas d'argent. Demain, ils vont avoir faim. Et demain, ça va être des émeutes. Tout en sachant, de nouveau, sans vouloir caricaturer, mais c'est des questions que les citoyens doivent avoir en tête, tout en sachant que, par exemple, les récoltes aujourd'hui sont rendues difficiles par le manque de main-d'œuvre. Et j'en reviens comme ça à la question des migrants. Parce que la question des migrants, c'est qu'un certain nombre de personnes qui ramassent, par exemple, les fraises dans les champs, sont des migrants qui travaillent de façon plus ou moins légale. Les migrants n'ont pas décidé de travailler illégalement, que les choses soient claires. Hein. C'est toujours les employeurs qui font le choix de prendre une main d'œuvre qu'ils peuvent payer moins cher, qu'ils tiennent parce qu'ils ont besoin d'argent, ces migrants, et qui ramassent à bas coût les fraises dans les champs. Par exemple, les fraises. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où une part de la main-d'œuvre traditionnelle, habituelle, ne peut pas travailler. Et on est dans une situation, me dit-on même, dans certaines régions au nord de la Grèce, où les villages ont dû être confinés pour cause de coronavirus, et les troupeaux, par exemple, ne peuvent pas aujourd'hui être nourris. Les fermiers ne peuvent pas sortir pour aller ravitailler leurs troupeaux. Alors, ils se mettent d'accord sur un système. C'est un fermier va pour les autres. Il y a une autorisation de sortie. Mais un troupeau, par qui c'est gardé ou par quoi c'est gardé? Par un chien qu'on appelle le patou. Et le patou ne répond qu'à son maître. Donc, on imagine les difficultés que ça peut engendrer, y compris pour l'avenir, sur l'indépendance alimentaire des pays de l'Union européenne, mais pas que. D'ailleurs, j'ai vu que l'OMS et la FAO, hein, les deux organismes de l'ONU, en charge, l'un, l'OMS de la santé, l'autre de l'alimentation, ont déjà émis une alerte sur les risques de pénurie alimentaire. C'est pour dire. Et il faut quand même bien comprendre en plus qu'on en arrive à cette situation parce que l'Union européenne n'est pas capable de produire des masques et que des gouvernements, y compris les gouvernements français, ne sont pas capables de relancer une industrie quand même l'outil industriel existe. On le connaît très bien avec l'exemple de Luxfer en France, mais on a un autre exemple où là, l'outil productif, l'outil de travail n'existe plus. C'est cette usine de masques, celle qui a développé les masques FFP2 en Bretagne. Cette usine a été vendue aux Américains. Le directeur de la boîte dit qu'il faut la relancer, mais on ne la relance pas parce qu'il n'y a pas la volonté politique. C'est quand même incroyable. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais je crois qu'elle est importante quand même à avoir en tête. Et le troisième point sur les migrants, c'est que il me semble que le coronavirus est un peu utilisé comme prétexte pour la politique menée actuellement.
Mais que se passe-t-il dans les camps de réfugiés?
Ce que je voulais dire, c'est que quand le pays a été confiné, immédiatement, dans la foulée, vraiment immédiatement, on a décidé de confiner aussi les camps de migrants. Mais qu'est-ce que ça veut dire confiner quand on est dans un camp, par exemple celui de Mouria, à peu près 3700 places ou 3300, là j'ai un petit trou de mémoire, j'ai pas bien révisé ma leçon, et 20 000 personnes sur le camp. Donc, il est évidemment impossible de confiner la population. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, il y a eu très peu de cas de détectés chez les migrants et aussi quand les cas ont été détectés, ils ont pu être enlevés des camps. Et par chance, sur l'île de Lesbos, où est implanté le camp de Moria, donc à la frontière avec la Turquie, les 6 malades qu'il y a eu ne sont pas des migrants. C'est la population locale. Il apparaît fort peu probable qu'ils aient été contaminés par des migrants, même s'il y a toujours cette question du porteur sain. Mais il semble que les premiers malades qui ont été découverts sur Lesbos, des gens qui étaient allés en pèlerinage. Donc en fait, c'est plutôt le vecteur de transmission. Bon, je reviens maintenant sur ce confinement. Donc on a un débat en Grèce sur la transformation des camps en centres fermés. La deuxième chose, c'est que le gouvernement grec a suspendu l'enregistrement des demandes d'asile pour les migrants. Et ça, c'est en contradiction avec le droit international. La troisième chose, c'est que alors que le gouvernement qui est arrivé en juillet, le gouvernement de droite, a pris comme première décision de supprimer le numéro d'identification sociale aux migrants qui leur permettait de travailler éventuellement, d'aller à l'école, d'être soigné d'abord, il a au final réintroduit par la loi un numéro d'identification sociale temporaire. Le principe est de dire on ne peut pas laisser un numéro d'identification sociale permanent puisqu'ils ne sont pas là pour rester. Les migrants ne sont pas là pour rester. Soit. Sauf que le décret d'application n'est toujours pas entré en vigueur. Donc, on est toujours dans un problème juridique énorme pour ces migrants. Ça, c'est le deuxième gros souci, c'est l'accès aux soins. Et le troisième gros souci qui pose, le deuxième gros souci, c'est l'absence d'enregistrement et la question d'accès aux soins. Et le troisième gros souci, c'est que comment faire dans un pays comme la Grèce, confiné, renfermé, avec les frontières fermées, pour évacuer les migrants, alors que la Grèce ne peut pas supporter seule les 60 000 migrants qui sont aujourd'hui, 65 000 migrants qui sont aujourd'hui sur son territoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est rien au regard des 425 millions d'habitants de l'Union européenne. C'est beaucoup pour 10,8 millions d'habitants en Grèce.
Merci Fabien pour nous avoir éclairé sur la situation en Grèce. Je mettrai sur notre site internet www.loldf.org les liens vers les derniers articles que tu as écrits sur le sujet.
Merci beaucoup, Calimera, bonne santé et à bientôt.